Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à paraître à la une de ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une de La Marseillaise avec le dossier de La Marseillaise sur la réforme du lycée professionnel passé à la moulinette macroniste.
Oui, alors passé à la moulinette macroniste, alors il faut un peu contextualiser cette réforme du lycée professionnel. Le lycée professionnel qui accueille, hein, je rappelle, 621 600 lycéens,
oui.
C'est un lycéen sur trois qui est en lycée professionnel. Elle est préparée depuis, on va dire, un an. La bataille des retraites a obligé le gouvernement et le président de la République de reporter son annonce.
Oui.
Et il a fait cette annonce-là en grande pompe le 4 mai en Charente-Maritime dans un lycée professionnel. Alors, notre dossier décrypte un petit peu le contenu de cette réforme qui est en fait une transformation radicale, une transformation radicale du lycée professionnel. En gros, pour résumer, il s'agit d'adapter le lycée professionnel au marché de l'emploi selon les besoins des entreprises, ce qui est déjà à la base un principe qui est assez inquiétant et qui d'ailleurs tous les enseignants, tous les syndicats des enseignants de ces lycées sont vent debout et réclament le retrait de cette réforme, puisqu'on rappelle que un lycée professionnel, l'élève est considéré comme un jeune qui est en train d'apprendre un métier et qui n'a pas à devenir une main-d'œuvre à bas coût pour les entreprises.
À lire aussi ce vendredi dans La Marseillaise, le scandale du comptage des élèves absents lors de la fête de l'Aïd dans l'Hérault.
Oui, tout à fait. C'est la Dépêche du Midi, hein, il faut le rappeler, qui a sorti cette information.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a eu des demandes officielles, notamment dans l'Hérault et en Haute-Garonne, pour compter les élèves absents lors de la fête de l'Aïd. Alors, bien évidemment, ça soulève d'énormes protestations de la part de collectifs de parents d'élèves, d'enseignants, d'associations de défense des libertés, et qui expliquent dans nos colonnes donc le glissement dangereux de ce fichage des élèves. Alors, bien évidemment, le rectorat se défend, dit que c'est une erreur, voire une faute, mais il n'empêche que ça a eu lieu et donc nous revenons très largement sur ce sujet.
À lire aussi dans La Marseillaise, la mobilisation des salariés chez Adage, le plus grand employeur dans l'Hérault du secteur de l'ESS.
Oui, en fait, c'est le secteur économique et social, donc ce sont des métiers très différents et une bonne partie de ces salariés, et paradoxalement, ce sont les plus bas salaires qui ont été exclus. C'est à peu près 400 personnes qui ont été exclues de la prime avec la flambée des prix, donc avec l'inflation. Les syndicats se mobilisent, ils sont en intersyndicale pour exiger donc qu'ils perçoivent cette prime Ségur. Et ils donnent tous leurs arguments dans le journal où on leur donne largement la parole.
En mars de cette année, on a découvert le cimetière abandonné de l'ancien camp de transit où l'on parquait les harkis dans les années 60.
Oui, tout à fait. Alors nous avons rencontré et nous faisons l'interview de Nadia Koufria, qui est la présidente de l'association Soraya, qui est à l'origine, c'est grâce à elle que les fouilles ont pu avoir lieu, parce qu'elle a découvert des documents d'archives qui notait donc qu'il y avait bien un cimetière, entre guillemets. En fait, la plupart des personnes qui ont été enterrées à la va-vite, oui, dans ce cimetière, ce sont des enfants, hein, oui, qui sont morts de maladie, qui sont morts de froid pour certains, dans ce camp de transit. Et donc aujourd'hui, il y a des fouilles officielles et il y a un projet aussi de mémorial. Mmh. Et donc on revient avec Nania Goufria sur ce combat pour la mémoire.
Oui, ça fait froid dans le dos. Beaucoup plus léger, la feria de Pentecôte à Nîmes avec la rencontre du bar Le Prolet.
Alors oui, Le Prolet, c'est une institution à Nîmes, hein, c'est un bar très engagé politiquement, hein, mm-hmm, bien ancré à gauche, hein, avec beaucoup de communistes aussi. Et c'est un bar qui, pendant la feria de Pentecôte, qui va battre son plein tout le week-end à Nîmes, devient vraiment un lieu de rencontre très très divers. Donc ouais, on est allé à leur rencontre et on donne bien évidemment, outre notre rencontre avec nos amis du bar Le Prolet, le programme de cette feria de Pentecôte qui est le vraiment la grande fête de la capitale, mmh, du Gard ce week-end.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernin.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, cette une de la Marseillaise avec le dossier sur la réforme du lycée professionnel, comme vous le dites, passer à la moulinette macroniste.
Oui, alors pourquoi passer à la moulinette macroniste? Parce que Emmanuel Macron et son gouvernement veulent appliquer au lycée professionnel les, on va dire, les recettes libérales. Hein.
Et oui.
Donc c'est une réforme qui est préparée depuis un an et c'est une véritable transformation des lycées professionnels et les enseignants et notamment les syndicats n'ont absolument pas participé aux concertations,
oui,
parce qu'ils disent que cette réforme signe la mort du lycée professionnel.
D'accord.
Pourquoi? Parce que le lycée professionnel, il doit préparer un métier et avec un enseignement scolaire solide. Là, il s'agit avec cette réforme de l'adapter au marché de l'emploi selon les besoins des entreprises. Hein.
Mmh.
Alors évidemment, le gouvernement Emmanuel Macron communique énormément sur la gratification des stages pour les élèves,
eh oui,
mais en fait on voit que c'est un miroir aux alouettes, hein, pour faire avaler cette réforme qui est terrible, parce que il va y avoir par exemple, il l'a dit très clairement le 4 mai quand il a présenté sa réforme, qu'un certain nombre de filières seraient supprimées. Alors bien évidemment, ouais, dans les lycées professionnels, les filières évoluent, elles changent selon évidemment aussi le changement des modes de production.
Oui.
Voilà. Mais là, c'est fait de façon très très brutale. Par exemple, on sait il y a des cartes qui sont sorties, des cartes officielles qu'a publié le ministère de l'Éducation nationale.
Ouais.
Il va y avoir pour l'instant, pour la rentrée 2023, 102 places dans le secteur commerce en Occitanie qui vont être supprimées. Il y a des places qui vont être ouvertes, mais sur des secteurs très précis, l'industrie, le BTP, l'informatique. Et à Montpellier, par exemple, ça sera l'informatique et l'industrie.
Mmh.
Donc c'est vraiment l'idée du gouvernement, c'est d'adapter l'enseignement professionnel au marché de l'emploi.
Mmh.
Et ça pose un certain nombre de problèmes, notamment aux enseignants, parce que ils vont être obligés d'être le bras armé,
et oui,
du gouvernement pour l'appliquer. Parce que cette réforme, elle comprend aussi ce qu'on appelle le pacte pour les enseignants. Alors là, c'est la grande, au prétexte d'augmenter les rémunérations,
ouais,
les enseignants, que ce soit dans les lycées généraux ou les lycées professionnels et technologiques, devront s'engager volontairement s'ils veulent des augmentations de rémunération.
Et oui.
C'est-à-dire, c'est le travailler plus pour, mmh, gagner plus.
Ce qui veut dire que le gouvernement, quand même, pense que les enseignants sont bien rémunérés, alors, ça veut dire.
Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ils constatent que les salaires sont bas, Mais ils décident, pour qu'ils soient mieux rémunérés, de leur donner plus de travail.
Donc, en fait,
par l'absurde, on peut dire qu'il estime à la fois qu'ils sont déjà payés, bien payés, et que s'ils veulent être mieux payés, il faut qu'ils travaillent plus. Donc, ça sous-entend qu'ils ne mènent pas actuellement leur mission.
Oui.
Bon, derrière ça, quand on contractualise, en fait, on applique des méthodes managériales du privé. Et l'enseignement, il est encore public. Les enseignants sont des fonctionnaires, ils ont un statut, ils ont aussi la liberté d'enseignement, ça fait partie aussi du statut. Ils ont évidemment des droits, ils ont des devoirs, et là, on est en train de remettre complètement en cause le statut même des enseignants. Pour les élèves, ça va se traduire aussi par moins d'enseignements généraux. Alors, on en a interrogé quelques-uns de ces élèves. Évidemment, ils sont contents parce que les stages vont être gratifiés. Donc, pour l'instant, ils ne voient que ça. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que certains secteurs, et d'ailleurs ceux que nous avons interrogés, ils sont dans des filières dont Emmanuel Macron ne veut plus. Par exemple, il va citer un bac d'accueil à la personne, ça va être ou les questions administratives. Il estime que il n'y a pas assez d'emplois au bout. Donc ça, c'est décrété selon des chiffres qu'il a avancés. Mais comme nous l'écrivons, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Donc voilà. Donc nous avons un dossier assez complet avec aussi un entretien avec l'historienne Laurence Decoq, qui est vraiment spécialiste de l'enseignement de l'histoire, mais aussi de l'histoire de l'école. Et donc, elle critique vraiment avec des arguments cette réforme du lycée professionnel, en soulignant notamment que ça a toujours été le parent pauvre de l'éducation nationale et qu'aujourd'hui, on essaie évidemment de s'en débarrasser.
Et puis en filigrane, on pourrait presque se dire, bon là, il s'attaque au lycée professionnel, mais il risque de fermer aussi des filières dans des facs.
Alors là, ça c'est encore un autre sujet, puisque les facs, évidemment, selon les budgets alloués aux facultés, on peut ou pas développer des filières.
Oui.
C'est pour ça que la sélection a été mise en place après la licence. Faute de moyens, il y a moins de places. Donc, on va sélectionner. Donc, voilà. Et donc, on ne va pas développer. C'est le cas. On a un cas très, très, très précis avec, à Montpellier, l'université Paul Valéry. Où il faut rappeler que le syndicat de combat universitaire de Montpellier a réussi à faire supprimer la sélection, mais de façon, on va dire, symbolique. Parce que si les moyens ne suivent pas, si l'université est moins dotée, eh bien, on ne pourra pas ouvrir de nouvelles filières ou accueillir tous les étudiants. Voilà, donc tout c'est un tout quand même, ces contre-réformes Macron qui ne sont pas du tout progressistes. On peut faire le lien aussi avec la bataille sur les retraites. Tout se tient et tout a une certaine logique politique.
Et à ça, vous rajoutez le problème du RSA où les gens vont devoir travailler.
pour pouvoir percevoir le minimum vital. C'est-à-dire le RSA, il faut rappeler que c'est le minimum vital. C'était le revenu minimum, à l'époque c'était le RMI. Et on a maintenant une tension sur ces personnes qui perçoivent le minimum vital, que l'on menace de sanctions s'ils ne répondent pas à des demandes, à des injonctions. Et donc on est vraiment avec l'obsession de la baisse du coût du travail. Qui est l'élément de réponse pour peut-être lire, avoir une lecture critique des différentes réformes de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron.
Oui, et puis c'est encore une fois une façon de mettre la population dos à dos en montrant que, regardez, les RSistes ne travaillent pas, mais on ne vit pas avec un RSA non plus.
Mais c'est ce qui se passe aussi avec l'apprentissage. et les lycéens qui sont en lycée pro. Oui. Les apprentis aujourd'hui sont payés, mais ils sont payés par l'entreprise. Mmh. Parce qu'il y a un élément très important que je n'ai pas souligné, c'est que l'annonce aussi toute vitriante du milliard par an supplémentaire pour le lycée professionnel, oui, il y aura 400 millions payés de la poche de l'État, oui, pour gratifier les stages. Les entreprises, d'accord, ne sortiront pas un euro. Il y aura donc un peu moins de 300 millions pour le pacte, pour rémunérer les enseignants volontaires, oui, et 150 millions pour la mise en place du bureau des entreprises, puisqu'à la rentrée, tous les lycées professionnels vont accueillir des bureaux des entreprises, mmh, c'est-à-dire que dont les personnes qui vont les animer seront recrutées directement par le chef d'établissement. Ouais. Donc les personnes qui, au sein du lycée pro, ont des statuts et s'occupaient déjà de ces missions-là, pour l'instant, elles sont dans le flou le plus total. Mmh. Donc c'est vraiment mettre le lycée pro au service des besoins des entreprises et sans s'interroger sur pourquoi il y a des métiers en tension, oui, pourquoi des salariés adultes ne veulent plus faire certains métiers parce que c'est mal rémunéré et il y a de mauvaises conditions de travail. On prépare la jeunesse à être corvéable, oui, à merci, et sachant que sociologiquement, l'écrasante majorité des jeunes en lycée professionnel vivent dans les classes populaires. Mmh.
On reste dans l'éducation avec le scandale du comptage des élèves absents lors de la fête de l'Aïd et notamment dans l'Hérault.
Alors là, c'est, on peut dire que on peut, heureusement qu'on est assis parce qu'on a presque envie, oui, de tomber quand on a appris par nos confrères de la Dépêche du Midi que l'éducation nationale, des hauts fonctionnaires, avaient demandé aux établissements de faire remonter le nombre d'enfants, de lycéens, de collégiens, mmh, absents au moment de la fête de l'Aïd. Alors, dès à présent, il faut dire que depuis 1978, il est interdit de ficher qui que ce soit par rapport à sa religion, et que, qui plus est, l'éducation nationale prévoit un certain nombre d'autorisations d'absence, mmh, pour les fêtes religieuses hors calendrier de vacances scolaires. Mmh. Mais là, on ne demande pas de fichage pour les fêtes bouddhistes, pour les fêtes juives. Oui. En revanche, pour les fêtes musulmanes, là, on a demandé ce comptage. Bien évidemment, nous y revenons en faisant réagir la communauté éducative, notamment Muriel Cosman, qui est responsable d'un collectif de parents d'élèves à Montpellier. Oui. Ce collectif s'appelle Une école, un avenir, et elle est complètement préoccupée et scandalisée par cette mesure, hein, parce qu'elle dit que, évidemment, ce qui, eux, les inquiète le plus, c'est l'absentéisme des professeurs non remplacés, oui, même lors des congés maternité ou de formation. Oui. Donc ça, c'est un petit tacle assez bienvenu quand on parle d'absentéisme dans l'éducation nationale. Mmh. Donc toujours Muriel Cosman nous explique que cette demande, elle rappelle donc que c'est prévu dans le calendrier de l'éducation nationale. Oui. C'est autorisé par une circulaire qui date de 2004. Donc les hauts fonctionnaires devraient connaître leur propre loi. Oui. Hein. Donc c'est une totale aberration. Il y a aussi le secrétaire de la FSU 34, donc c'est le syndicat notamment très implanté chez les enseignants, Stéphane Audebeau, qui fustige aussi cette mesure, hein, et surtout il s'inquiète de la méconnaissance de la laïcité chez les fonctionnaires.
Hein, c'est ce que j'allais dire.
Et il craint vraiment un précédent fâcheux pour l'avenir de la République, hein, en disant qu'il est temps de réaffirmer vraiment les valeurs de l'éducation nationale, Pareil pour la libre pensée de l'Hérault, qui dénonce là aussi une atteinte à la laïcité, via laquelle l'islam est une nouvelle fois visé.
Oui.
Donc, c'est vraiment... Alors, le rectorat, c'est dans ses petits souliers, hein, on va dire, puisque il y a eu des demandes du ministère de l'Intérieur,
oui.
Bon, mais il y a eu aussi des demandes de... dans l'Hérault, directement du DASEN, mmh. qui a donc le responsable académique, qui a envoyé un mail et qui a reconnu vraiment son erreur en disant de ne pas en tenir compte. Mais la rectrice de l'Académie de Montpellier, Sophie Béjean, a ensuite admis une faute. Là, ça s'est passé lors d'une réunion, un comité social d'administration,
oui.
Le 22 mai, où ils ont admis une faute, et elle y voit y compris une dérive. Enfin, c'est pas Sophie Béjean qui voit une dérive, c'est Muriel Cosman,
oui.
pardon, qui voit vraiment une dérive. Dans cet acte de, on va dire, de fichage, pas de fichage, mais en tout cas de recensement des absences.
Oui.
Alors ça nous rappelle, nous, de très mauvais souvenirs,
oui.
puisque en 2015, dans les écoles de Béziers, Robert Ménard
oui.
avait voulu compter les prénoms à consonance maghrébine.
Mmh. Ça fait froid dans le dos.
Oui.
Allez, on passe à la mobilisation des salariés chez Adage, le plus grand employeur dans l'Hérault de l'ESS.
Oui, alors en fait, Adage, il emploie 1700 personnes dans le secteur social et médico-social, qui fait donc partie de l'économie sociale et solidaire, hein, où il y a énormément d'employés. Mais c'est un secteur aussi où il y a énormément aussi de petits salaires.
Oui.
Et on sait qu'au moment de la pandémie, pour, on va dire, remercier, entre guillemets, les salariés qui s'étaient mobilisés ou qui, eux, ne pouvaient pas télétravailler dans le secteur de la santé, mais aussi médico-social,
oui.
il y a eu la prime Ségur. Alors, dans ce secteur-là, ça s'appelle la prime Lafourcade. Elle est d'un montant de 183 euros. Et elle a été donc octroyée à l'issue du Ségur de la Santé
mmh.
à un certain nombre de personnes de cette grande entreprise héraultaise, mais 400 sont restées sur le carreau.
D'accord.
Et c'est souvent des personnes qui travaillent à l'entretien, dans les cuisines, dans les espaces verts, des petits salaires, souvent
oui.
à temps partiel. On a aussi les alternants, donc en formation professionnelle, qui n'y ont pas eu droit.
Mmh.
Et ce qui fait bondir les syndicats, c'est que dans le même temps, cette même entreprise, elle a fortement augmenté les salaires de ses 15 directeurs,
oui.
De l'ordre de 300 à 600 euros net par mois.
D'accord.
Donc, ce que l'intersyndicale dit, c'est pas tant que les directeurs étaient revalorisés, ça c'est pas un souci, mais en revanche, ce n'est pas normal que les salariés ne bénéficient pas d'une prime ou même d'augmentation de salaire.
Oui.
Si on peut augmenter les directeurs, on doit pouvoir augmenter les salariés.
Absolument.
Donc, il y a eu une mobilisation. Qui était prévue jeudi 25 mai
oui.
devant le siège d'Adage à Gravels pour demander donc au moins une rencontre et des discussions
mmh.
Parce que là évidemment la direction est prête à discuter, elle n'est pas forcément responsable directement du non versement de la prime
oui.
mais en tout cas vu les difficultés que les gens ont dans le secteur médico-social hein,
mmh.
Par exemple Gérard Verrier qui est un des syndicalistes de la CGT qui fait partie de l'intersyndicale
mmh.
rappelle qu'il y a 25% de pouvoir d'achat perdu ces 20 dernières années, donc
oui.
c'est énorme hein. Et donc c'est des situations aussi de travail qui sont compliquées
mmh.
Donc il y a une exigence aussi au-delà de la prime, d'augmentation de salaire de l'ordre pour attraper la perte de salaire de l'ordre de 400 à 500 euros brut pour tous les salariés. Donc voilà, donc on va suivre ça de près parce que ça participe aussi des combats pour avoir des salaires décents et pour pouvoir aussi faire son métier de façon correcte.
Oui, et puis ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'en France, on en vient à se battre juste pour une petite prime de quelques centaines d'euros.
Exactement, oui. Mais il y a une injustice parce qu'elle a été distribuée comme ça, pas de façon discrétionnaire. Mais en tout cas, pour certains qui ont beaucoup travaillé aussi, être exclu de cette prime Ségur, c'est vraiment une injustice profonde.
Le cimetière abandonné de l'ancien camp de transit où l'on parquait les harkis dans les années 60 a été découvert.
Oui, alors ça, en fait, ça fait 4 ans qu'on recherche où était ce cimetière, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un cimetière. Les personnes étaient enterrées comme ça à la va-vite. Alors, il faut rappeler que dans les années 60, le camp de transit de Saint-Maurice-l'Ardoise, qui se trouve dans le Gard, a parqué jusqu'à 6000 harkis dans des conditions déplorables. Oui. Donc, ce site donc abrite un cimetière caché aux familles, puisque en fait, les familles n'assistaient même pas à la mise en terre. Il a été retrouvé en mars donc de cette année et ces recherches n'auraient jamais pu avoir lieu sans l'acharnement de Dania Goufria, qui est la présidente de l'association Soraya. Donc, nous l'avons rencontrée et elle nous explique toutes les difficultés qu'il y a pour identifier les enfants enterrés là, parce que c'est essentiellement des enfants qui sont morts d'épidémie, qui sont morts aussi de froid, qui ont été jetés là, on peut dire, comme des animaux. Alors aujourd'hui, sur 31 sépultures identifiées, on en a déjà trouvé 27. Oui. Ce sont les archéologues de l'INRAP qui mènent ces fouilles. Oui. Et Nadia Goufria est en contact, elle, avec une dizaine de familles. Il y a aujourd'hui deux urgences. C'est identifier les disparus, parce que d'après un registre qui avait été établi et qui a été retrouvé par Nadia Goufria, il y a 70 noms, mais simplement 31 personnes dont l'inhumation a été notée. Donc on peut encore trouver beaucoup plus de, de corps, ou ce qu'il en reste. Il y a donc cette urgence d'identifier pour qu'ils aient une sépulture digne de ce nom. Et il y a aussi la reconnaissance. Donc récemment, la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales, a annoncé la réhabilitation du cimetière et la création d'un mémorial. Bien évidemment, l'association Soraya et les familles et le comité scientifique aussi du cimetière qui s'est mis en place avec des historiens, des chercheurs, ils veulent être forcément étroitement associés à ce projet de réhabilitation qui va au moins un peu réparer et surtout lever le voile sur ce pan d'histoire extrêmement douloureux et la façon dont on a aussi traité ces gens.
Oui. Allez, beaucoup plus léger pour finir, Françoise, la feria de Pentecôte de Nîmes, et vous êtes allée à la rencontre du bar Le Prolet.
Oui, alors c'est vrai que alors la feria de Pentecôte, ils font les choses en grand, ça commence dès ce mercredi de la semaine jusqu'au lundi de Pentecôte, donc, et ça va vraiment... Et ça va vraiment vivre au rythme des beaux dégâts, des spectacles. Au-delà des corridas, on peut vraiment s'amuser et découvrir aussi tout un pan culturel des cultures taurines et même des cultures andalouses, des cultures du cru, quoi. Mais on a voulu aller saluer dans notre numéro nos amis du bar Le Prolet. C'est un bar historique qui a été créé en 1908, qui est fortement ancré avec des valeurs progressistes, de gauche, communistes. Et pendant la feria, c'est vraiment un point de ralliement pour de nombreux Nîmois et de nombreux visiteurs. Comme le résume son responsable Éric Codonner, c'est un bar populaire bon sens,
au bon sens du terme.
au bon sens du terme, ils ont décidé de ne pas augmenter le tarif de leur consommation,
ouais,
parce que il y a l'inflation. Ils ont même décidé d'augmenter les salaires de leurs employés, mmh, pour qu'ils puissent faire face à l'inflation. Et donc, par rapport aux bodegas un peu plus confidentiels où il y a des prix vraiment prohibitifs,
ouais,
le prolet, on va dire que c'est une l'âme authentique de la feria de Pentecôte de Nîmes. Hein. Il renoue aussi avec des animations musicales.
Ouais.
Alors, et pour finir en beauté ce week-end de feria, ils ont invité donc lundi à 20h pétante, il y aura donc le groupe de flamenco rock Ricky Amigos,
ouais,
qui va venir donc donner un concert. Donc c'est vraiment un groupe historique puisqu'ils ont inspiré les Manon Negra, ils ont aussi joué avec Manu Chao, donc c'est vraiment de la grande qualité et ça sera endiablé.
En tout cas, on sait que beaucoup de Montpellierains se rendent à Nîmes pour chaque année,
oui,
pour cette feria de Pentecôte.
Oui, il y a des centaines de milliers de personnes.
Et oui.
Tout à fait.
Tout est dit, Françoise.
Il fallait que nous en parlions.
Et oui, absolument.
Tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à lire dans l'hebdo La Marseillaise.
Et sur et le www.lamarseillaise.fr.
Voilà, et voilà l'essentiel du numéro qui sort le 26.
Et quant à nous, chère Françoise, on se retrouve à partir de la semaine prochaine.
Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
Très belle semaine.
Merci.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.